Bonjour à toutes et à tous, RFI 16h, temps universel, 17h à Paris, 18h à Kiev.
Le journal en français facile.
Adrien Delgrange.
Avec Marion Kazanov. Bonjour Marion.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Nous sommes ensemble pour 10 minutes d'actualité internationale. Mercredi 7 décembre, au sommaire, la vie quotidienne des Chinois devrait être plus simple car les autorités ont annoncé un allègement, un assouplissement des mesures sanitaires contre le Covid. Reportage à Pékin. La guerre en Ukraine, de nouveaux bombardements ont fait aujourd'hui au moins 6 morts des civils qui habitaient la ville de Kourakové. Sauver la nature, c'est le but de la COP15, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui commence aujourd'hui à Montréal. Et puis nous parlerons de sport, football, Coupe du Monde, présentation des quarts de finale par nos spécialistes maison. C'est à la fin du journal.
En Chine, Adrien, la colère des habitants aura fait évoluer, changer la politique sanitaire de leur pays.
Suite aux manifestations, parfois violentes, contre la politique chinoise dite du zéro Covid, les autorités ont annoncé ces dernières heures de nouveaux assouplissements, des allègements concernant les règles mises en place pour lutter contre le Covid-19. Et parmi ces changements, à noter notamment que pour les cas positifs au Covid, eh bien, c'est la fin de l'internement, la fin de l'isolement dans des centres fermés. Désormais, en Chine, si vous êtes positif au Covid, vous pouvez rester isolé chez vous. À Pékin, Stéphane Lagarde.
Ces nouvelles instructions de la Commission nationale de la santé interviennent en pleine vague épidémique, notamment dans la capitale chinoise, où les centres de quarantaine n'ont plus de place. Pour les asymptomatiques, nécessité fait loi, les cas bénins ou à faibles symptômes s'isoleront donc désormais chez eux. Ce qui est totalement nouveau pour la Chine et les habitants de cette résidence du sud de la capitale où sont apparus des cas de contamination ces derniers jours. Manu, un Français père de famille.
On a vu la vague arriver chez les voisins et puis quand les deux petits bâtonnets sont passés au rouge pour le test du petit, alors lui il a éclaté en sanglots. Tout j'ai pris dans mes bras, je lui demande s'il avait peur du Covid. Non, j'ai pas peur du Covid, j'ai peur qu'on m'envoie en camp. Donc il était terrorisé à l'idée d'être séparé de nous. Le fait d'être capable de rester à la maison, c'est super rassurant.
Les autorités et les médias multiplient les messages sur le caractère moins dangereux d'Omicron. Mais les mentalités restent marquées par 3 ans de politique zéro Covid où le virus était isolé, bloqué dès son apparition. Jia Jia, 33 ans, célibataire.
Quand on m'a dit que j'étais positive, je n'ai pas eu peur de mourir, franchement. Mais j'ai refait tous mes déplacements dans ma tête. Comme je suis allée chez l'opticien, je me suis dit, ça y est, c'est game over pour le magasin de lunettes qui va être fermé parce qu'un cas Covid l'a visité. J'ai pas peur pour moi, mais je m'inquiète pour les tracas que j'ai pu causer.
De l'inquiétude, mais heureusement, le regard sur la maladie évolue, dit la jeune femme. Avant, les gens auraient eu peur. Aujourd'hui, on m'a simplement conseillé de boire beaucoup d'eau, de prendre des vitamines et de bien dormir. Stéphane Lagarde, Louise May, Pékin RFI.
À présent, Adrien, les dernières informations sur la guerre en Ukraine.
Au moins 6 morts, 6 civils tués et 5 autres blessés. Dans une frappe russe, ça s'est passé aujourd'hui sur la ville de Kourakové, située à environ 50 km à l'ouest de Donetsk. C'est ce que déplore le président Volodymyr Zelensky. De son côté, le président russe a reconnu aujourd'hui que le conflit en Ukraine était long. Bien sûr, c'est un long processus, a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion retransmise aujourd'hui à la télévision nationale.
Et les conséquences de la guerre en Ukraine et les difficultés à vivre, voire survivre pour nombre d'habitants.
Manque d'eau potable, coupure d'électricité, téléphone et internet souvent interrompus. Des problèmes quotidiens pour de nombreux Ukrainiens, des habitants obligés, contraints de vivre, voire de s'habituer à vivre avec ces difficultés, comme en témoigne cet habitant de Kiev.
Every day we have some turning off.
Tous les jours, il y a des coupures. Pour l'électricité, c'est 2 ou 3 fois par jour. On a par exemple 5 heures avec du courant et 4 heures sans courant. Ça dépend des jours, ça dépend d'éventuelles difficultés de maintenance, etc. Par exemple, lundi, à Kiev, la situation était différente selon la partie de la ville. Quand les alarmes ont retenti, tout a été coupé, même l'eau dans certains quartiers. Mais en début de soirée, 2 heures après la fin de l'alerte, tout a été rétabli. Et le lendemain matin, il y a eu une coupure, comme prévu par le calendrier.
Le témoignage de cet habitant de Kiev, joint au téléphone par Juliette Garbrand.
Et puis, en mer Noire, la mer est située au sud de l'Ukraine. Des milliers de dauphins retrouvés morts.
50 000 dauphins seraient morts à cause de la guerre. D'après un scientifique ukrainien, la guerre russe a un impact, un effet énorme sur la faune de notre pays, ajoute le président Zelensky. L'hécatombe, à savoir le nombre de dauphins morts très élevé en mer Noire, serait due notamment à la présence de sous-marins et de bateaux de guerre dans les eaux de la mer Noire depuis fin février, pensent savoir les scientifiques ukrainiens.
Le coup d'envoi aujourd'hui de la COP15, un sommet international pour sauver la nature, Adrien.
Cette réunion, Marion, organisée par l'ONU, rassemble 190 pays au Canada, à Montréal. Les discussions vont durer 12 jours et le défi est immense. Sauver les animaux, sauver les milieux naturels nécessaires à la vie des animaux. Et le temps presse. 1 million d'espèces d'animaux menacées d'extinction, à savoir de disparition. Explication, Lucille Gimbert.
Montréal sera-t-il pour la biodiversité l'équivalent de l'accord de Paris pour le climat ? Scientifiques et ONG en rêvent. Les chiffres montrent qu'il y a urgence à agir. 69% des populations de vertébrés ont disparu en 50 ans. Les 3/4 de la surface terrestre ont déjà été dégradées par les activités humaines et 1 million d'espèces pourraient s'éteindre d'ici à 2050. Les insectes pollinisateurs qui permettent l'agriculture, les coléoptères qui recyclent les bouses de nos animaux d'élevage ou encore les micro-organismes qui stockent le carbone dans l'océan, le monde vivant joue un rôle indispensable. Alors que les engagements passés n'ont pas été tenus, les négociateurs et ministres présents à Montréal doivent établir le cadre international de la prochaine décennie. Mais les discussions préparatoires ont été poussives. Les plus ambitieux, comme l'Union européenne et des pays intertropicaux à la biodiversité luxuriante, plaident pour un objectif, 30% des terres et des mers protégées d'ici à 2030. Mais d'autres, surtout les grands exportateurs agricoles comme le Brésil, pourraient faire obstruction. La question du financement de la protection de la nature sera elle aussi au cœur des négociations.
Lucille Gimbert, RFI à Paris, 17h08.
Le journal en français facile.
Le mondial de foot au Qatar, pas de match aujourd'hui ni demain.
Repos pour les joueurs avant les quarts de finale de la compétition. Les prochains matchs se joueront vendredi et samedi. Alors, qui dit quart de finale, dit précisément 8 équipes encore en compétition. Présentation de ces belles affiches, de ces beaux matchs en perspective à Doha, Frédéric Suto.
5 équipes européennes, 2 équipes sud-américaines, les 2 que l'on attendait, Brésil et Argentine, qui pourraient se retrouver en demi-finale, et le Maroc, grande première, pour compléter ce top 8. Le tableau des quarts nous montre une hiérarchie de la planète foot assez conforme à ce que l'on pouvait imaginer. Les équipes asiatiques, par exemple, Japon et Corée du Sud, n'ont pas réussi en 8e à confirmer les espoirs suscités lors du premier tour. Et l'Afrique, qui avait 2 représentants en 8e de finale, Sénégal et Maroc, ne peut plus compter que sur les Lions de l'Atlas, à eux, avec cette opposition face au Portugal qui se profile de faire mieux que le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010, l'espoir d'atteindre les demi-finales. En Coupe du Monde, il y a peu de surprises. Le quart entre les Pays-Bas et l'Argentine est un grand classique du mondial. Le Brésil, qui brigue ici une 6e étoile, retrouve le finaliste d'il y a 4 ans, la Croatie. Quant à l'équipe de France, championne du monde en titre, elle croisera le fer avec une Angleterre, demi-finaliste en 2018, des Anglais qui font partie des 8 pays à avoir déjà soulevé le trophée. C'était en 1966. Frédéric Suteau, Doha, RFI.
C'est la fin de ce journal réalisé par Laurent Philippot, rédaction en chef Anne Cantner.